Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission Il était une fois encore Noailles sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la maison des contes et légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Toute cette année, nous avons abordé les légendes de Cornouailles par thème. Il est plus que temps, à l'approche de l'été et de la période des promenades, de passer en revue les endroits les plus légendaires de notre région. Cette semaine, nous nous promènerons donc en presqu'île de Plougastel, en rade de Brest et dans les environs du Fou, d'où nous émettons. Ensuite, comme d'habitude, dans une seconde partie, je raconterai une histoire improvisée grâce aux éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés à notre association via notre page Facebook. Commençons donc par la presqu'île de Plougastel. Si vous nous écoutez, vous savez déjà que le géant Gargantua y est passé et a formé la côte nord. Eh bien, il existe une variante à cette version où ce n'est pas Gargantua, mais le diable lui-même qui a formé cette côte nord de la presqu'île, si inhospitalière. Au bon vieux temps, le diable, ayant entendu vanter les mérites de la presqu'île de Plougastel, décida de s'en rendre compte par lui-même. Il se déguise en mendiant et commence sa visite. Après plusieurs heures de marche, il est tiraillé par la faim. Il frappe à la porte du manoir de Kiréo, mais le seigneur des lieux le reconnaît et le chasse à grands coups de bâton. Satan, furieux, se dirige vers la grève. Apercevant une cabane de pêcheurs, il se fait ouvrir la porte et demande à manger. Un jeune garçon lui donne alors une écuelle pleine de lait ribot, assaisonnée de sel, de poivre et de moutarde. Écœuré d'avoir été reconnu et ainsi traité, Satan se jette à l'eau et traverse les Lornes pour se rendre à Kiréo. Là, une vieille veuve le reconnaît, mais sert quand même à ce pauvre diable des crêpes et de la bouillie d'avoine. Le ventre plein, Satan décide, bien que ce ne soit pas dans ses habitudes, de remercier la grand-mère.
« Oh, je ne manque de rien, lui dit-elle, mais ces énormes pierres que vous voyez dans mon champ me gênent pour labourer. »
Alors le diable prend les blocs de rochers et les lance en face, à Plougastel, sur la côte nord. Et ils y sont encore. Un endroit mal aimé donc que cette presqu'île de Plougastel d'Aoulas. La légende raconte qu'à Daoulas, une femme aurait été chassée de la ville, après avoir mis au monde 7 enfants. En partant, elle lança une malédiction. « Brest va Gresk, Daoulas va Rdiscar, passavotenti equesotri » ce qui signifie « Brest croîtra, Daoulas déclinera, quand on construira une maison, il s'en écroulera trois ». Cette légende est à rapprocher de celle des sept saints que nous avons déjà racontée lors de notre première émission sur cette antenne. Lorsque l'ombre de la mort semblait planer sur une personne chère, on allait à Plougastel Daoulas consulter une fontaine dédiée à Saint Languise, patron des moribonds. Si elle était pleine, on pouvait revenir à la maison avec confiance, car l'heure du malade n'avait pas encore sonné. Si au contraire, elle était tarie, c'était signe de mort inévitable et prochaine. De l'autre côté de la presqu'île, sur la côte sud, à Saint-Trémeur, vivait Fanta Lesoualc, qui pour gagner quelques sous se louait à la journée dans les fermes des environs. Aussi ne pouvait-elle vaquer à son propre ménage que le soir. Or, un soir, justement, elle se dit en rentrant « C'est aujourd'hui samedi et demain dimanche. Il faut que j'aille laver la chemise de mon homme et celle de mes deux enfants. Elles auront le temps de sécher d'ici à l'heure de la grand-messe car la nuit promet d'être belle. » Il faisait en effet un magnifique clair de lune. Fanta prit donc le paquet de linge et s'en alla laver à la rivière. Et la voilà de savonner, de frotter et de taper à tour de bras. Le bruit de son battoir retentissait au loin dans le silence de la nuit, multiplié par tous les échos. Plic, plac, ploc. Elle était toute à sa besogne. Quel que fût l'ouvrage, elle y allait ainsi hardiment des deux mains. C'est sans doute pourquoi elle n'entendit pas arriver une autre lavandière. Celle-ci était une femme mince, svelte comme une biche et qui portait sur la tête un énorme fait de linge aussi allègrement que si c'eût été un ballot de plumes. « Fanta, dit-elle, tu as le jour pour toi, tu ne devrais pas me prendre ma place la nuit. » Fanta, qui se croyait seule, sursauta de frayeur et ne sut d'abord quoi répondre. Elle finit enfin par balbutier. Oh, je ne tiens pas à cette place plus qu'à une autre, je vais vous la céder si cela peut vous faire plaisir.
Non, non, répartit la nouvelle venue, c'est par badinage que j'ai parlé de la sorte.
Je ne te veux aucun mal, bien au contraire.
La preuve en est que je suis toute disposée à t'aider si tu y consens.
Fanta, que ces paroles avaient rassuré, répondit à la femme de la nuit.
Ma foi, ce n'est pas de refus, seulement je ne voudrais pas abuser de vous, car votre paquet semble plus gros que le mien.
Oh, moi, répondit l'autre, rien ne me presse.
Et la femme de la nuit, de jeter là son fait de linge, et toutes deux de frotter, de savonner, de taper avec entrain. Tout en besognant, elles causèrent.
Vous avez la vie dure, Fanta?
Ah, vous pouvez le dire, ma bonne dame, en ce moment surtout, depuis l'Angélus du matin jusqu'à la nuit close au champ, et cela doit durer ainsi jusqu'à la fin du mois d'août. Tenez, il n'est pas loin de 10 heures et je n'ai pas encore soupé.
Oh, eh bien, Fanta, dit l'étrangère, retournez donc chez vous et mangez en paix.
Vous n'en serez pas la troisième bouchée que je vous aurai rapporté votre linge, blanchi comme il faut.
Vous êtes vraiment une bonne âme, répondit Fanta.
Puis elle courut d'une traite jusqu'à sa maison.
Déjà, s'écria son mari en la voyant rentrer, tu vas vite, vraiment.
Eh oui, c'est grâce à une aimable rencontre que j'ai faite, répondit Fanta.
Et elle se mit à raconter son aventure.
Son homme l'écouta, allongé dans son lit, où il achevait de fumer sa pipe.
Dès les premières paroles de Fanta, son visage devint tout soucieux.
« Oh oh !» dit-il quand il eut fini.
« C'est là ce que tu appelles une aimable rencontre. Dieu te préserve d'en faire souvent de semblables. Tu n'as donc pas réfléchi à qui était cette femme ?»«
Eh bien, » répondit Fanta, « tout d'abord, j'ai eu un peu peur, mais je me suis vite rassuré. »«
Malheureuse, tu as accepté l'aide d'une lavandière de la nuit. »
Jésus, mon Dieu, j'en avais eu l'idée. Mais que faire maintenant, car elle va devoir venir me rapporter mon linge.
Achève de souper, répondit l'homme. Puis range soigneusement tous les ustensiles qui sont sur l'âtre. Suspends surtout le trépied à sa place. Tu balayeras ensuite toute la maison de façon à ce que l'on ait un air bien net. Tu mettras le balai dans un coin, la tête en bas. Et cela fait, lave-toi les pieds, jette l'eau sur les marches du seuil et couche-toi, mais sois preste.
Fanta obéit en hâte. Elle suivit de point en point les recommandations de son homme. Le trépied fut bien assujetti à son clou, le sol de la maison nettoyé jusque sous les meubles, le balai renversé, le manche en l'air, et l'eau qui avait servi à laver les pieds de Fanta répandue sur les marches du seuil de la maison.
Voilà, dit Fanta en sautant sur le banc tossel et en se fourrant au lit, sans même prendre le temps de se déshabiller tout à fait.
Juste à ce moment, la femme de la nuit cogna à la porte.
Fanta, ouvrez, c'est moi qui vous rapporte votre linge.
Fanta et son ami se tinrent ben quoi.
Une seconde, une troisième fois, la femme de nuit répéta sa demande d'ouverture.
Même silence à l'intérieur du logis.
Alors on entendit au dehors s'élever un grand vent. C'était la colère de la lavandière de la nuit.
Puisque chrétien ne m'ouvre, hurla une voix furieuse. « Trépied, viens donc m'ouvrir !»«
Je ne puis, je suis suspendu à mon clou, » répondit le trépied.
« Viens alors toi, le balai !»«
Je ne peux pas, on m'a mis la tête en bas. »«
Viens alors toi, l'eau des pieds !»«
Hélas, regarde-moi, je ne suis plus que quelques éclaboussures sur les marches du seuil. »
Le grand vent tomba aussitôt. Fanta entendit la voix furieuse qui s'éloignait en grommelant.
« Ah, la mauvaise pièce !» Elle peut se féliciter d'avoir trouvé plus savant qu'elle pour lui faire la leçon.
Et Fanta se garda bien désormais d'aller laver son linge pendant la nuit. Une autre femme, Catel Golet ou Catherine la Perdue, si vous n'êtes pas bretonnant, est représentée sur les calvaires de Guilmillot et de Plougastel d'Aoulas dans la gueule de l'enfer. Une légende évoque son triste sort. Elle était une belle jeune fille de 16 ans qui vivait dans le château de son oncle à la Roche-Maurice, près de Landerneau. Sa beauté, malheureusement, n'avait d'égal que la perversité de son esprit. Le comte, voulant se décharger de cette lourde tutelle, espérait bien pourtant lui trouver un mari qui prendrait soin de la raisonner. Néanmoins, la belle préférait se livrer au plaisir de la danse et de la fête plutôt que de songer au mariage. Pour contrer son oncle, elle usa d'un subterfuge, lui faisant déclarer qu'elle épouserait tout homme capable de la faire danser 12 heures d'affilée. Nombreux furent les jeunes gens du comté à tenter leur chance.
mais elle les épuisait tellement que la plupart, morts de fatigue, ne voyaient pas le jour suivant. L'hécatombe était telle que son oncle l'enferma dans l'une des tours de son château. Mais Catel s'en échappa et se rendit au pardon de la martyre, accompagnée d'un nouveau cavalier. Les danses s'enchaînèrent, les deux danseurs s'en donnaient à cœur joie. Mais le jeune homme non plus ne résista pas à l'infatigable Catel qui, prise dans le feu de la danse et de l'alcool, invoqua les puissances de l'enfer demandant de nouveaux musiciens. C'est ainsi que le diable apparut et l'entraîna dans une gigue infernale, puis lui fit franchir les portes du royaume des damnés. Une autre femme semble maudite, la dame Blanche de Plougastel. À minuit, sur le vieux pont de Plougastel, une dame habillée d'une robe de mariée apparaît. Selon l'histoire, elle allait se marier, mais son homme n'est pas venu, et du coup, elle s'est suicidée sur ce pont. Depuis, elle en voudrait aux hommes. D'après la légende, on pourrait l'apercevoir sur le vieux pont en passant à minuit. Un autre jour, à Daoulas, il y a bien longtemps de cela, une hirondelle qui avait été longtemps malade était en train de couver ses œufs dans son nid, construit en haut d'une vieille cheminée abandonnée. L'été était déjà bien avancé et les blés étaient mûrs. Une souris qui s'était égarée vint montrer son museau à la porte du nid. Elle cherchait un trou pour y passer la nuit. « Voulez-vous, ma bonne dame, dit-elle à l'hirondelle, me laisser passer la nuit chez vous, c'est aujourd'hui le sabbat et j'ai bien peur des chats. » « Je le veux bien, répondit l'hirondelle, mais à une condition, c'est que vous m'aidiez pendant 3 jours à couver mes œufs. Mon mari m'a abandonné et je suis bien faible, j'ai faim et je n'ai personne pour m'apporter à manger. Vous couvrez à ma place pendant que j'irai chercher ma vie. Je vous nourrirai pour votre peine et je vous apporterai de beaux épis de froment. » La souris accepta et 3 jours durant, elle couva les œufs pendant que l'hirondelle alla aux provisions. Puis elle partit. Et voilà les petits qui éclosent. Mais quel monstre ! Ils étaient couverts de poils au lieu de plumes. Ils avaient une tête et un corps de souris avec des oreilles et des ailes crochues et membraneuses comme le diable. Et oui, vous avez reconnu, ce sont des chauves-souris. La mère hirondelle, voyant cela, tomba malade et mourut bientôt de chagrin. On lui fit un bel enterrement à Daoulas et il faisait beau voir qu'elle était bien aimée et regrettée tant il y avait d'hirondelles venues de tout le pays, de Quimperlé à Pont-l'Abbé, à Crozon et à Carré. L'église de Daoulas en était toute noire. Les hirondelles pleurèrent beaucoup le malheur de leur pauvre sœur et avant de partir, la reine des hirondelles fit enfermer les pauvres orphelins dans le cloître de Daoulas et leur défendit, sous peine de mort, de ne jamais sortir à la lumière du soleil. Elle défendit aussi aux hirondelles de bâtir désormais leur nid dans les cheminées. Voilà pourquoi, à Daoulas et dans toute la Cornouaille, les chauves-souris ne sortent pas le jour, et pourquoi les hirondelles bâtissent leur nid aux fenêtres. Vers 550 de notre ère, ayant appris que les supérieurs des monastères de Cornouaille, dont Saint Jahoua, s'étaient réunis non loin de ces terres pour conférer ensemble, un seigneur païen du fou se fit accompagner d'une bande de soldats et enfonça les portes de l'église où se trouvaient les tenants de la nouvelle religion. Saint Adec fut massacré sur l'autel. Saint Judulus eut la tête tranchée au moment où il s'enfuyait vers l'Andévennec. Jahoua fut, lui, assez heureux de pouvoir regagner Saint-Sauf Braspard. Cependant, Dieu vengea ses serviteurs. Un dragon horrible sortit de la mer et ravagea le bourg du fou, puis ses environs. Le Seigneur devint la proie du malin esprit, et il fallut toute la puissance de Saint Paul, évêque du Léon, pour vaincre le monstre et guérir le meurtrier. Celui-ci, devenu chrétien en réparation de son crime, fonda le monastère de Daoulas, ou monastère des deux plaies ou des deux douleurs, au lieu même où Saint Judulus avait été assassiné par lui. Depuis, dans le parc de l'abbaye de Daoulas, sont disséminées des statues de saints. Si l'on veut savoir quelle sera pour soi la vie future, il faut fabriquer une croix en bois et la lancer sur un des saints placés dans le fond du parc. Si la croix reste au-dessus de la statue, on ira au ciel. Si elle se place dans les bras du saint, on ira au purgatoire. Et si elle tombe dans l'eau, on ira en enfer. Dans le même parc se trouve une source et par devant plusieurs petits bassins de pierre. Lorsqu'on pose une épingle dans le bassin, si l'épingle surnage, on se mariera dans l'année. Un peu plus loin, lorsque Saint-Léyère arriva sur les hauteurs du Cranou, au sud-est de Plougastel, le seigneur de ce pays était si pauvre qu'il en était nu, mais lui fit bon accueil. et n'ayant pas de bois, lui fournit des mottes pour édifier son ermitage. Dès que ce dernier fut érigé, une forêt magnifique poussa tout autour, et le saint la bénit en disant que le bois ne manquerait plus jamais dans la forêt du Crâneau. Et c'est depuis ce jour que les bois du Crâneau sont toujours si fournis. Voilà pour les légendes qui concernent la presqu'île de Plougastel-Daoulas et les bois du Crâneau. Redescendons un peu maintenant. Un peu plus au sud, en passant près d'un étang, le jeune Yannick du Fou vit soudain toutes les grenouilles sauter en l'air en faisant entendre un chant des plus mélodieux. Tendant l'oreille, il se mit à les comprendre et apprit qu'elles étaient joyeuses parce qu'une jeune fille avait craché une hostie dans l'étang et qu'une grenouille l'avait avalée, bénissant par là toute sa famille. Jean-René Guzon du Fou revenait, lui, une nuit, de la foire de Landerneau. La route était longue de Landerneau au Fou. Jean-René sifflotait en marchant pour se donner des jambes et aussi pour se tenir compagnie.
« Ah, oh, tu siffles à merveille !» dit tout à coup une voix derrière lui.
Jean-René se retourna et aperçut un homme à cheval qui venait tranquillement au pas de sa bête.
« Où vas-tu »
demanda l'homme quand il eut rejoint Jean-René. « Au Fou, je rentre chez moi. »
« Ah, je vais aussi de ce côté, nous allons faire route ensemble donc. »
Et les voilà de cheminer côte à côte. « Votre cheval ne fait pas grand bruit, » observa Jean-René, « on dirait qu'il n'est pas ferré. »«
Ah, oh, c'est qu'il est encore jeune, » répondit l'inconnu, « et qu'il a le sabot tendre. »
La conversation continua sur un ton amical. Ils causèrent des gens du Fou. L'homme semblait connaître tout le monde de la ville et des environs, depuis le plus riche jusqu'au plus pauvre. Il racontait sur la vie de chacun des anecdotes fort drôles. Un tel est un ivrogne, un tel un ladre, tel autre bat sa femme, celui-ci est cornard. Celui-ci est jaloux. Et à chaque nom qu'il prononçait, il citait une histoire pour prouver son dire. C'était un amusant compagnon. Jean-René était aux anges de l'avoir rencontré. Tout en jasant, ils arrivèrent à l'entrée d'une avenue sur la gauche du chemin.
« J'ai besoin de m'arrêter ici, » dit le cavalier. « J'ai une commission à faire dans le manoir qui est là-bas derrière les arbres. Aurais-tu la complaisance de tenir la bride de mon cheval pendant ce temps-là? Dans quelques minutes, je serai de retour. »
« Volontiers, répondit Jean-René, mais je crains bien que vous ne fassiez un voyage inutile. À part ailleurs, il ne doit y avoir personne sur pied au manoir. »«
Oh, si, on compte sur moi, » répondit l'inconnu.
« Eh bien, allez, d'accord. »«
Prends garde que la bête ne t'échappe. »«
N'ayez pas peur, j'en ai maintenu de plus fringantes, » répondit Jean-René. Le cavalier sauta à terre, prit un sac qui était amarré à la selle et s'engagea dans l'avenue. Jean-René, lui, passa la bride à son bras et pour plus de précaution, empoigna solidement la crinière du cheval.
Aïe, chrétien, chrétien, soupira la bête, tu me fais mal. Par pitié, ne tire pas tant sur mes crins.
Jean-René eut un cri de stupeur.
Comment? Les chevaux se mettent à parler maintenant?
Je suis cheval aujourd'hui, mais de mon vivant j'étais une femme. Regarde mes pieds, tu verras. Jean-René regarda et vit en effet que la bête avait des pieds humains. De jolis pieds fins et menus comme ceux d'une femme.
« Jésus, mon Dieu ! » fit-il. « Quelle espèce d'homme est-ce donc qui te monte ?»«
Ce n'est pas un homme qui me monte, c'est le diable. Il s'est arrêté ici pour aller quérir au manoir l'âme d'une jeune fille qui vient de trépasser. Il la met en ce moment dans le sac que tu l'as vu prendre, et tout à l'heure il l'emportera en enfer. Tu peux t'attendre à semblable destin si tu n'as pas déguerpi avant qu'il nous rejoigne. »
Jean-René n'en écouta pas davantage. Il avait déjà pris sa course vers le Fou où il arriva hors d'haleine. Il fut 3 jours sans pouvoir parler. Ce n'est que le 4e soir qu'il trouva la force de raconter aux siens son aventure. Nous allons faire maintenant une petite pause musicale.
C'est pour écueillir, je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nuits. Au son de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nuits. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nuits. J'ai trouvé l'accueil dessus son lit. Au son de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. J'ai trouvé la caille dessus son lit, j'ai trouvé la caille dessus son lit. J'ai marché sur l'aile et la nuit rompit. Au son de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. J'ai marché sur l'aile et la nuit on plie. J'ai marché sur l'aile et la nuit on plie. Elle me dit pucelle, retire-toi d'ici. On chante l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Retire-toi d'ici, elle me dit pucelle, retire-toi d'ici. Je ne suis pas pucelle, viens à mon pied. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors.
Merci d'être resté avec nous. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter a été créée à partir des éléments envoyés par Véronique sur notre page Facebook. Et ces éléments étaient un lapin blanc, un oiseau arc-en-ciel et une magicienne. Alors, il y a longtemps, en Angleterre, vivait un lapin blanc un peu particulier, un peu magique. Il venait en effet à l'origine du pays des merveilles, s'habillait avec recherche et avait pour habitude de toujours être en retard. Un retard que son énorme montre à gousset lui rappelait sans cesse. Il avait fait la connaissance d'une jeune Anglaise aux cheveux blonds, une fois avec qui il avait partagé le thé. Mais elle était repartie et depuis il s'ennuyait. Lorsque vous vivez au pays des merveilles, vous vous retrouvez facilement en Cornouailles bretonnes en empruntant un des nombreux passages qui les relient entre eux. Un jour donc, le lapin blanc, toujours en retard, avait décidé que cela suffisait, que le stress n'était pas bon pour son cœur, et il était venu s'installer en Cornouailles. Il arriva par la mer et fut époustouflé par la beauté de la lande avec ses genêts en fleurs, alors que l'hiver tombait sur le monde. Il parcourut la Cornouaille bretonne en long, en large et en travers, s'enfonça sous terre à la rencontre des Korrigans, après avoir navigué sur l'océan souterrain. Il traversa le pays des rats géants, des monstres sans nom, puis, arrivé aux portes de l'enfer, décida qu'il valait mieux remonter. Lorsqu'il ressortit sur la terre bretonne, il entendit parler des châteaux merveilleux qui se trouvaient au-dessus des nuages. Là vivaient les dragons des vents ou des magiciens très puissants. Il eut alors une envie irrépressible de s'y rendre. Cependant, tout lapin magique qu'il fût, il ne pouvait pas voler. Même en Cornouailles bretonne, un lapin, ça ne vole pas. Il se rendit alors chez A.S. l'enchanteresse. Cette dernière le reçut avec beaucoup de courtoisie. Le lapin lui exposa le motif de sa venue et comment, après avoir vu ce qu'il y avait sous la terre, il aimerait désormais admirer ce qui se trouve au-dessus des nuages. A.S. lui répondit qu'elle pouvait effectivement l'aider, mais que toute peine méritait salaire. Alors le lapin lui donna sa belle montre à gousset, considérant que l'admiration des merveilles qui l'attendaient ne pourrait être soumise à une chose aussi triviale et terre à terre que le temps qui passe. L'enchanteresse prit la montre, l'observa attentivement avec admiration, puis fit manger au lapin une salade de pissenlits lumineux qu'a ramassée sous la pleine lune, assaisonnée de grains de quartz rose. Le lapin se régala. Quand il eut terminé, une première plume arc-en-ciel poussa au milieu de sa queue, puis une deuxième, une troisième. Et en moins de temps qu'il ne fallut pour le dire, le lapin blanc se transforma en un superbe oiseau arc-en-ciel qui put voler par-dessus les nuages et découvrir les merveilles qui s'y trouvent. Elles doivent être vraiment spectaculaires, ces merveilles, car l'oiseau arc-en-ciel n'est jamais revenu pour raconter ce qu'il avait vu. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles ». 26 minutes en terre des fées rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.